BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, merci d'être là, merci d'être fidèle à De quoi je me mêle. Comme chaque week-end, vous le savez, on plonge dans l'actu tech. Le vendredi dès midi, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de BFM Tech et le podcast audio qui vous attend aussi. Ça, c'est l'avant-première de quoi je me mêle. Et puis, dès le week-end, vous pouvez nous regarder, nous écouter sur BFM Business à la radio, à la télé. Avec au sommaire de ce De quoi je me mêle, eh bien, tout à l'heure, une deuxième partie vraiment exclusive, puisque à l'occasion de VivaTech, j'ai pu rencontrer le fondateur de Tetris. Oui, Tetris, le jeu auquel on a tous joué, qui nous a accroché, scotché sur les écrans de nos Game Boy et autres consoles de jeu pendant des années. Il s'appelle Alexey Pajnitov. Il sera en interview dans De quoi je me mêle en deuxième partie. Rendez-vous incroyable, puisque le fondateur de Tetris était à VivaTech et on a voulu vous faire plaisir. Il nous racontera cette histoire abracadabrante de la création de ce jeu en pleine guerre froide, hein, puisque c'était dans les années 80, rappelons-le. Ça ne nous rajeunit pas, cette histoire-là. Je vous rappelle le hashtag des QGMM si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte dans cette émission. Un grand merci d'être fidèle à De quoi je me mêle. C'est parti.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.
Alexey Pajnitov, c'est pas facile à dire, mais vous le verrez tout à l'heure. Nous avons maintenant pour le club de la presse IT Olivier Frigara qui est là. Salut Olivier.
Bonjour François.
Olivier Frigara, le fondateur de On refait le Mac, de la F1 aussi qui cartonne. Merci d'être là.
Plaisir. Je demande l'Asie climatique à BFM. Voilà, donc je reste là demain.
C'est vrai que la climatisation marche très très bien. D'ailleurs, tous les invités qui veulent venir dans nos plateaux, n'hésitez pas, c'est bien climatisé.
On est bien ici.
Damien Licata est là avec nous aussi. Salut Damien.
Bonjour. Oui, c'est un très bon argument quand même.
Ah, ouais, c'est pas mal en ce moment. Je sais pas si ça va durer. Espérons que ça dure pas longtemps.
Parce qu'ils vont nous mettre dehors au bout de 2-3 jours quand même.
Damien qui est journaliste au Parisien. Bon, vous avez la clim aussi quand même là-bas.
Oui. Tout à fait.
Bon, très bien. Tetris quand même, c'est dingue, non, en deuxième partie?
Ouais.
C'est fou quand même, on a tous joué à ce jeu-là.
Ça évoque de beaux souvenirs.
C'est sans doute le jeu le plus mythique du jeu vidéo.
Jeu de la Game Boy.
C'est incroyable.
Il y a on va dire que j'amène tout à Apple, mais
c'est... Vous allez voir, hein, donc cette interview qu'on va vous diffuser dans une petite demi-heure dans De quoi je me mêle, Alexey est d'une humilité incroyable. Incroyable.
Enfin, vous verrez ça. Excellent film, un long métrage sur Apple TV qui raconte l'histoire de Tetris. Magnifique.
Je lui posais la question d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que ce film, a été romancé? Enfin, est-ce que l'histoire de Tetris et de son parcours a été romancée? Il nous racontera ça tout à l'heure. Mais pour donc cette première partie, on va commenter l'actu tech de cette semaine et on va parler lunettes connectées parce que un nouvel arrivant pointe le bout de son nez. Alors vous le savez, hein, Meta cartonne avec ses Ray-Ban Meta, Samsung et Google se sont associés pour lancer des lunettes qui arriveront, je crois, à la fin de l'année, qu'on attend avec impatience. Apple aurait dans ses cartons aussi des lunettes connectées, mais c'est Snap qui vient d'annoncer ses lunettes. Alors elles sont prêtes là, je crois qu'elles sont quasi prêtes, hein.
Elles vont sortir bientôt, bien sûr, voilà. Elles arrivent d'abord aux États-Unis, ensuite elles arrivent en Europe à la rentrée.
Oui.
Donc ce sont les specs,
qu'on a
vu beaucoup circuler les prototypes, les premières versions. C'est assez logique finalement, Snap a une expertise en réalité augmentée, ils l'ont appliqué à un produit et ça donne ces lunettes assez classique, mais dessus on va avoir des petits verres et on va reproduire un écran de 24 pouces. Donc voilà, c'est un écran assez confort. Et si on veut tirer un petit peu plus, on peut arriver jusqu'à 105 pouces pour avoir un écran de type télé. Mm-hmm. Certainement on perdra en qualité. Donc c'est quand même des lunettes assez révolutionnaires dans ce style-là parce qu'elles fonctionnent en totale autonomie. Elles sont pas reliées à un smartphone comme ça peut être le cas pour les Meta.
Ouais. Elles sont un peu plus,
plus volumineuses logiquement, massives, parce qu'il faut quand même caler les verres. Pour pouvoir projeter dessus des images, le prix aussi, il est volumineux, hein, on est sur 2 300 €.
Ah oui.
Voilà, il faut parfois payer les premières technologies.
Et qu'il y a pris un Apple Vision Pro. Donc
ça reste de l'informatique spatiale, ça reste un peu cher, mais ce sont les premiers modèles et c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément Snap dans cette catégorie-là et de lancer surtout la popularisation de ce genre de produit parce qu'on se dit à chaque fois les lunettes connectées sont l'avenir de la tech, elles vont dépasser un moment les smartphones. Peut-être que ça commencera par un modèle comme ça, peut-être que ça commencera aussi par un modèle peut-être un peu plus simple. On sait aussi qu'il y a les lunettes de Rokid, les Chinois, qui arrivent aussi en Europe et en France maintenant. Elles sont aussi assez chères, on va être dans les 1 700 euros. Donc, avec un usage qui est différent, les ROKID, c'est juste de la projection en fait de texte, un peu à la Matrix. C'est des caractères en vert et on peut lui demander de faire appel à un petit assistant IA. Donc, c'est un peu, ça ressemble au Meta Ray-Ban, mais avec du texte inclus sur les verres. Donc, on va savoir très rapidement qui va gagner la bataille des lunettes connectées. Mais en tout cas, il y a vraiment de l'activité autour et de l'émulation autour de ces lunettes.
Alors c'est rigolo parce que Snap n'en est pas sa première paire de lunettes. Je sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens d'un CES de Las Vegas où j'avais vu dans une espèce de grande allée, alors même pas dans le salon, hein, c'était dans les rues de Las Vegas, une espèce de pop-up store où Snap présentait ses premières lunettes qui s'appelaient les Spectacles. Je sais pas si vous vous souvenez.
Ouais,
qui étaient basico-basiques. Hein, y avait des caméras, je crois. Je sais même pas s'il y avait des haut-parleurs à l'époque dessus.
Non, c'était à l'époque d'ailleurs.
Et c'était le concept du fondateur de Snap, c'était de dire, Snap c'est de la vidéo, on fait des micro-vidéos, etc. Ben, on va pouvoir les faire avec les lunettes. Ça n'a pas véritablement marché. C'est arrivé un peu trop tôt.
Et oui.
Ces lunettes sortent un peu dans un contexte compliqué parce que Snapchat n'est plus le réseau social qui gagne énormément d'argent.
Ils ont perdu de leur superbe, mais ils ont quand même réussi à maintenir une fanbase assez conséquente. Hein. Il y a quand même des gens qui étaient des utilisateurs adolescents, qui sont entrés dans l'âge adulte.
Ouais, qui restent.
Donc, il y a un budget différent aussi, et qui sont peut-être capables d'acheter ça par fidélité à Snap.
Mais est-ce qu'ils ont les épaules assez larges pour lancer cette gamme de nouveaux produits? Parce que là, on est sur de nouvelles lunettes qui sont totalement autonomes. Et c'est ça qui est impressionnant.
Ouais,
c'est
que vous n'avez même pas besoin d'un smartphone. Qui sont capables.
Il y a un OS dedans qui tourne.
L'OS, exactement, de faire tourner des petites applications de réalité augmentée qui sont dédiées à ces lunettes-là, plus de faire tourner la projection et qui est quand même gourmande en énergie. Donc, c'est des lunettes avec une autonomie limitée. On ne sait pas exactement quel public ils visent.
Sur des 4 heures, hein, c'est ça l'autonomie.
Oui, on est sur des 4 heures, donc c'est pas forcément
pas
pour
mal,
regarder.
Pas Vision Pro, encore une fois, qui lui est mis à 2 heures.
Hein. Il y a un petit peu plus chaud aussi, si on en revient à la clim. C'est vrai que. Ils ont un marché devant eux, peut-être, à investir. Et est-ce qu'en étant les premiers, ils vont pouvoir le préempter? On verra.
C'est intéressant parce qu'effectivement, on se demande tous et toutes ce que va faire Apple autour de ces lunettes connectées. Est-ce que le modèle, ça va être plus le modèle d'un Meta aujourd'hui qui a cartonné hein, avec les Ray-Ban Meta? Il y a eu des nouveautés encore cette semaine. Et qui aujourd'hui devient la norme du marché. Mais c'est une vision beaucoup moins, sans jeu de mots, beaucoup moins ambitieuse que celle de Snap aujourd'hui. Avec les specs, puisque c'est, il y a pas d'écran, puisque c'est juste, alors il y a une IA, et ça aussi, Snap, on les attend, est-ce que leur agent sera aussi efficace, hein, c'est pas leur métier non plus, hein, donc.
Il y a plein de questions, hein, l'autonomie, est-ce que c'est des grosses lunettes, est-ce qu'on pourra les, qui va porter ça, en fait?
Ça,
on a l'impression que c'est encore,
d'usage, quoi.
C'est pas un truc qui est sec, si tu veux, tu vois.
Je m'attendais à pire, si tu veux. Quand on écoute aujourd'hui et qu'on essaie de comprendre ce que pourrait faire Apple aujourd'hui, qu'on nous dit, mais ne croyez pas qu'Apple va sortir un Vision Pro ultra léger comme vous avez sur les lunettes, c'est pas possible. Quand on voit ce qu'on fait Snap, on se dit, c'est pas possible, mais un peu quand même. Donc, à terme, ça pourrait être intéressant d'ici quelques années de voir en matière de miniaturisation ce qu'on arrivera à faire. Surtout que, tu le sais, Apple maîtrise l'ensemble de la chaîne, y compris le silicone. Donc, elle peut vraiment développer des composants.
Et on a vu au CES, il y avait une start-up néerlandaise qui était capable, qui faisait une démonstration de force, qui attirait tout le monde, qui était capable de projeter une image extrêmement fidèle dans les petits verres et qui disait capable de produire ça pour des modèles industrialisés. Donc, finalement, peut-être qu'Apple ne va pas le faire directement, mais il serait peut-être capable de racheter une boîte comme ça pour gagner peut-être un ou deux cycles d'avance et se retrouver avec un produit qui arrivera sur le marché quand il sera vraiment à maturité, c'est-à-dire peut-être courant 2027.
Bon, en tout cas, on souhaite bonne chance à Snap. Franchement, moi, j'y crois pas trop parce que.
On va essayer, écoute.
Ça va coûter énormément d'argent en marketing. Est-ce qu'ils ont la capacité financière de se lancer aussi dans des magasins,
le réseau
de passer des accords commerciaux, de trouver un réseau de distribution?
Parce que par exemple, les Meta Ray-Ban, ils ont tout de suite fait un réseau d'opticiens ou deux, et puis après ils ont réussi à commercialiser les choses.
Après, j'ai un ami qui est
associé avec Ray-Ban surtout. Là, ils vont tout seuls.
Oui, c'est vrai. Mais j'ai un copain qui est ophtalmo et qui m'expliquait que ces lunettes étaient très intéressantes justement pour toutes les professions médicales. Elles permettraient par exemple d'avoir des informations en surimpression. Elles sont plus légère et plus confortable que le Vision Pro, par exemple. Bien. Donc, il y a peut-être aussi des débouchés professionnels.
Et cet ophtalmo, il a évalué un peu l'impact que ça pourrait avoir sur la rétine, parce qu'on n'a pas vraiment de recul. Si plus on rapproche l'écran, peut-être qu'on va pouvoir...
Il a lu les specs, il a dit c'est intéressant. C'est intéressant, mais après il faut voir effectivement si à l'usage, elles sont confortables et efficaces. Mais c'est bon, on va voir un peu ce qui se passe.
En tout cas, aujourd'hui, il est certain que les usages qui se développent autour de ces solutions de réalité mixte, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, autour du Vision Pro, c'est que du B2B, il y a beaucoup d'applications médicales. On sait que le casque, il y a des solutions françaises avec Clear Surgery qui permettent aujourd'hui à des chirurgiens de, non pas de travailler à distance, mais de plus avoir son batterie d'écran comme on a ici dans le studio, et de pouvoir travailler avec vraiment des écrans intégrés sans toucher des zones tactiles qui pourraient être infectées, etc. Donc il y a un vrai marché B2B autour de ça. Mais encore une fois, tu l'as dit, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'ils ont les épaules pour le faire? Moi, je suis quand même agréablement surpris. C'est vrai que c'est massif, mais je m'attendais à pire.
Ouais, à voir. Espérons qu'on puisse les tester rapidement. Et on vous fera un retour précis. Moi, j'avais pu les tester rapidement il y a quelques mois de cela, mais c'était pas terminé. Tu vois, c'était encore du proto et de la bêta. C'était assez intéressant, mais elles étaient lourdes, je trouve. Et tu ne peux pas te balader dans la rue avec ces lunettes-là, c'est pas possible. L'actu, c'est Meta aussi, qui, vous avez vu, alors continue son partenariat avec Essilor Luxottica, mais a décidé de sortir des lunettes de son côté, moins chères,
oui,
avec la même technologie qu'il y a dans les Ray-Ban Meta.
L'avantage, c'est quand on enlève la licence Ray-Ban ou la licence Oakley, on peut faire des produits un peu moins chers, parce qu'on n'a pas besoin de la payer. Mais donc, on se retrouve avec les Meta Glass qui commencent à partir de 309€. Donc voilà, ils enlèvent 50 à 60€ sur le prix de base des Wayfarer ou d'autres modèles qui sont collés à la marque Ray-Ban ou Oakley. Donc là, on est sur un produit plus abordable, avec quasiment les mêmes specs, un design un peu différent, un peu plus classique finalement. On se retrouve face à des lunettes de vue, et ils font un petit partenariat au passage pour créer le buzz avec Kylie Jenner sur un modèle bien particulier. Voilà, donc trois nouveaux modèles.
Kylie Jenner, d'accord.
Ouais, oui, mon pote.
Oui, bien sûr.
Ils auraient pu passer un accord avec toi.
Je suis pas sûr que ce soit la même. Tu peux me permettre. Mais
une entrepreneuse qui a des réseaux et qui est capable de bien vendre nos produits. Donc évidemment. Voilà, je pense qu'ils ont bien ciblé la bonne personne et la bonne ambassadrice.
Voilà. Alors tout ça, on voit que c'est en train, enfin tout le monde est en train de fourbir ses armes, hein, sur les lunettes connectées, baisser les prix, avoir quelque chose qui fonctionne. Tout ça parce que évidemment, à la fin de l'année, il y a les Samsung, Google qui sortent, qui peuvent peut-être être de sacrés concurrents aux lunettes Meta. Et puis, bien sûr, on attend qu'Apple sorte du bois, parce que on peut pas imaginer une seule seconde qu'Apple n'ait pas dans ses cartons un projet de lunettes connectées. Olivier.
Oui.
On est d'accord.
On est d'accord. C'est les liqueurs Apple, le Clairon. Alors, ils sont pas tous d'accord sur la disponibilité de ces lunettes, quelles seraient les fonctionnalités qui seraient mises en avant, mais on sait très bien que Apple a ralenti les projets autour du Vision Pro pour déployer l'équipe sur justement ce projet de lunettes connectées. Est-ce qu'on va récupérer des technos du Vision Pro? C'est ça qui est assez intéressant. Et il y aurait peut-être surtout une première version qui serait moins ambitieuse, qui serait plus en phase avec ce que fait aujourd'hui
Meta,
parce que finalement Meta, Google, est-ce qu'on peut parler de lunettes connectées ou des concurrents des AirPods? C'est ça dont il s'agit, c'est ça, aujourd'hui.
Tout à fait.
Donc le risque pour Apple, c'est de se dire, est-ce que demain on va toujours mettre des oreillettes, ou on va mettre simplement ces lunettes qui permettent de téléphoner, faire des photos, etc., ou d'écouter de la musique. Donc ils sont obligés de réagir, c'est clair. Est-ce qu'ils vont aller directement vers une solution vraiment ambitieuse, comme l'a présenté nos amis avec les specs récemment? C'est là où il y a une incertitude. Je pense qu'il leur faut du temps quand même pour ils iront.
Mais visiblement, ils prennent ce temps-là. C'est-à-dire qu'on sait que ça ne sera pas cette année, peut-être l'année prochaine. Et est-ce qu'on peut pas se dire que finalement, s'ils prennent du temps, c'est qu'ils vont sortir un truc un petit peu plus évolué que les lunettes qu'on a déjà. C'est-à-dire que je vois mal Apple attendre et sortir l'année prochaine des lunettes avec simplement une caméra et des haut-parleurs, tu vois. Je ne peux pas imaginer ça, c'est pas possible, il y aura forcément quelque chose en plus.
Ils sont plus créatifs et plus, ils pourraient pas se positionner sur le marché sans avoir une offre différenciante. Et ils ont beau l'appeler les eyeglass et les faire dans un blanc très reconnaissable, ça ne suffira pas. Les gens maintenant, ils sont passés à autre chose. C'est comme pour les écouteurs, il y a plein de gens qui sont passés outre les AirPods et qui ont basculé vers du vrai audio. Donc il y a une vraie, tellement une
du vrai audio,
du vrai audio, du vrai audio. Ils sont très bien les AirPods, mais voilà, il y a mieux en termes d'audio, je pense. Un avis purement personnel, mais je pense que ce sera la même chose avec les lunettes. Ils vont arriver dans un marché, il sera tellement foisonnant, il y aura même des gens sortis de nulle part, des fabricants chinois qui seront là avec un produit très 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 perfectionné. Donc ils seront obligés de relever le niveau s'ils veulent essayer d'exister.
D'Apple qui sont. Vous avez vu que pour les AirPods avec iOS 27, on va avoir l'équaliseur qui va arriver.
C'est énorme.
Mais c'est incroyable. On est en 2026, les gars. On va pouvoir rajouter des aiguilles et des graves à son AirPod.
Oui.
Ça, c'est quand même la...
Tu vas pouvoir paramétrer toi-même, comme un grand.
Wow. Dans les années 80. Merci,
Apple. Les AirPods vont même fonctionner sous Android à un moment. Ouais. Fais attention.
Ouais, hein. Ouais.
C'est fou. Non, mais ce qui est intéressant dans le cas, pour revenir aux lunettes, c'est que la force d'Apple, c'est avant tout son écosystème. Donc, on sait que la faiblesse de Meta aujourd'hui, c'est ça. Et que l'univers Meta n'est pas forcément très apprécié en termes d'écosystème et de... collecte des données, hein, pour ne pas nommer le sujet qui fâche. Donc c'est aussi le point fort qui est mis en avant par Google, parce que derrière il y a Android XR, donc ça va être plutôt sympa. Et là on va vraiment avoir un écosystème de lunettes connectées à terme, et des applications et des usages qui vont se développer. Pas uniquement prendre des photos, des vidéos et écouter de la musique.
Ça, enfin, moi franchement, ça serait vraiment, ça n'aurait pas de sens, mais bon. On n'est pas à l'abri, évidemment, d'un petit rebondissement. On parlait des AirPods. Il y a aussi une autre rumeur, Olivier et Damien, qui traîne en ce moment. Ce serait la future génération des AirPods qui serait équipée, écoutez bien, de caméras.
Mmh.
Alors,
c'est une rumeur qui revient depuis
pour voir à l'intérieur
une bonne année, non, il me semble.
Pour voir à l'intérieur de notre oreille, je vois pas trop à quoi ça peut servir. Est-ce que ce sont des vraies caméras? Est-ce que ce sont plutôt des capteurs infrarouges? On sait pas trop, mais visiblement, il y aura encore plus de technologies qui arriveraient dans les prochains AirPods, Olivier.
Oui, alors c'est intimement lié à une annonce qu'a fait Apple en début d'année, qui a fait couler beaucoup de temps, que c'est le rachat de QAI, cette boîte israélienne dans l'intelligence artificielle, qui a été rachetée plusieurs milliards, je me souviens plus du chiffre exact, mais c'était l'un des plus grosses acquisitions d'Apple, je crois que c'était 10 milliards, des plus grosses acquisitions d'Apple historiques, avec Beats et Next, qui est devenu macOS. Mmh. Non, c'est 1 milliard, j'ai dit une bêtise, mais c'était déjà pas mal, 1 milliard, croyez-moi. Okay. Et Beats, c'était 3 milliards. On va retrouver le chiffre, et on se demandait qu'est-ce qu'ils vont faire de cette IA. Et la particularité de QAI, c'est que c'est une IA qui voit. En clair, elle prend, elle a via des caméras qui sont pas forcément des caméras au sens qu'on entend, c'est pas des caméras infrarouges, des capteurs sur le visage qui perçoit les réactions non seulement de l'utilisateur, ce qui est intéressant, une crispation, un sourire, etc. Ou au contraire, prend en compte l'environnement. Aujourd'hui, avec la nouvelle version de Siri qui est enfin, entre guillemets, arrivé, parce que ça ne concerne pas forcément nous en Europe, Apple n'a plus ce boulet qu'il traîne depuis des années et peut enfin proposer des avancées intéressantes en matière de fonctionnalité IA sur ses AirPods ou demain sur ses iPhones ou ses lunettes connectées. Et cette fonctionnalité, ce serait de tenir compte de l'environnement avec des caméras qui seraient capables de dire « il fait chaud, il fait froid, il pleut, tu es en train de cuire quelque chose, je vais te pousser du contenu ». Tu es tendu. Pourquoi tu es tendu? Je vais te voilà.
Tu mets une petite musique.
Tu mets une petite musique douce. On peut tout imaginer. Et ce rachat de QI, il y a une chape de plomb. On ne sait pas ce qu'ils font autour de ça. Du jour au lendemain, la boîte a été intégrée à Apple et l'ensemble des salariés a été intégré. Je ne sais pas si tu as retrouvé le chiffre, mais je crois que
c'est 2 milliards.
C'est 2 milliards.
Ouais. Alors même si Apple n'a jamais communiqué, bien évidemment, sur le chiffre officiel, c'est intéressant cette boîte QI parce que. Son intelligence artificielle arrive à détecter des chuchotements et arrive à comprendre vos chuchotements et arrive à même lire sur vos lèvres. Et c'est ça, voilà, c'est incroyable, étonnant.
On voit le lien évident. Hein.
Bien sûr.
Mais l'intégration c'est rapide, hein, mais ça date de janvier. Mais après, à mon avis, ils discutent depuis longtemps.
Oui, ils discutent depuis longtemps.
Et puis le fondateur de cette boîte avait une start-up auparavant qui a été rachetée par Apple et c'était eux qui avaient développé, tu sais, la fameuse caméra de la Xbox, je me tourne vers le...
Connect.
Obscur de la Force, la Connect, qui a été intégrée et qui est devenue Face ID aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, la boucle est bouclée.
Bon,
pourquoi ils mettent des caméras dans les AirPods.
Ouais, 2027, c'est ce qu'on dit, on verra bien.
Et on sait que Judd Ternus, qui va succéder à la direction d'Apple...
Le nouveau CEO d'Apple, qui arrive en septembre.
Et en septembre, a beaucoup d'ambition et veut accélérer le rythme des sorties... Il va aussi accélérer, vous montrer une image un peu plus innovante d'Apple, un peu plus aussi revenir à ses premiers amours, oui. À savoir le design.
Oui, 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 c'est très intéressant tout ça, ça va te voir.
On est vraiment à un tournant. Oui. On va être.
Mais est-ce que c'est que des mots ou est-ce qu'il y aura. Ça sera suivi d'actes, ça va être très intéressant.
Fixé, dès le mois de septembre.
Oui. Tiens, tu parlais de John Ternus qui va aussi devoir affronter la hausse des prix de tous les produits Apple, là, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent.
Oui.
Apple qu'on croyait intouchable de par sa toute puissance par rapport aux fournisseurs de produits électroniques chinois et japonais et coréens, se retrouvent comme les autres au pied du mur. Ils vont être obligés d'augmenter les tarifs de leurs produits parce que les composants et notamment la mémoire vive, son coût explose. Et donc, il y aura une répercussion sur les prochains iPhones.
Apple est une boîte cotée en bourse et qui aime, comme toutes les boîtes, préserver sa marge.
Oui.
Donc, à un moment, les composants et le coût de fabrication
marge généreuse.
Augmentent, très généreuse. Donc, à un moment, voilà, ils sont obligés de l'appliquer. Ils ont quand même fait tampon pendant quelques temps, pour une génération d'iPhone et quelques produits aussi en parallèle. Mais c'est vrai qu'à un moment, la mémoire vive augmente, la mémoire aussi... de stockage augmente, tous les composants augmentent, le coût de fabrication aussi en Chine ou au Vietnam ou peu importe où ils le fabriquent, en ce moment ça dépend des produits, il augmente, le coût de la main d'œuvre augmente, donc à un moment ils doivent le répercuter, quoi. C'était un peu prévisible. Ce qui était un peu moins prévisible, c'était les tarifs qu'ils vont appliquer. Effectivement, là on est quand même sur un grand bond. Ça va être comment?
Tu as des chiffres?
Non, j'ai pas encore le nouveau catalogue, mais je pense que pour les nouveaux iPhones, on va le sentir passer. Ce sera beaucoup plus que la différence de TVA qu'on pourrait avoir entre les US et l'Europe. Donc, on sera peut-être sur peut-être 200 euros sur un iPhone. Peu importe l'innovation qu'ils mettront dedans, ce sera quand même très difficile à faire passer quand on va se retrouver avec un iPhone qui sera à minimum autour de 2000 euros. Enfin, c'est même un iPhone
déjà,
de base.
Ce qui est déjà le cas, non?
Oui, enfin, mais sur
un iPhone d'entrée de gamme.
Sur les versions Pro, mais sur l'iPhone de base, on n'est pas encore à 2000 euros.
On n'est pas loin.
Hein. Ouais. Là, on va passer le.
On n'est pas loin. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'iPhone pliable qui va lui tutoyer les étoiles des augmentations.
Euros, ouais.
Je pense.
Il faudra casser le PEL, oui, effectivement.
Parce qu'en plus, Apple a toute la légitimité à le vendre à un prix stratosphérique, ce téléphone. Parce qu'il est nouveau.
Il va être exceptionnel.
Il va être nouveau. Innovant de par ce que fait Apple,
ouais.
Alors
on espère.
Sauf s'ils veulent véritablement que ce type de produit se démocratise.
Oui.
Mais j'ose même pas imaginer le prix que pourra coûter ce produit, quoi.
Apple anticipe rarement et communique rarement sur des faits à venir. Là, Tim Cook a déclaré la semaine dernière qu'ils allaient être obligés de répercuter la hausse des composants, que c'était inévitable. Il n'a pas donné de calendrier, certainement pour préparer les esprits. Alors les différents liqueurs, les Marc Gurman et les Michiko se tirent la bourre à savoir qui va avoir raison. Les uns pensent que c'est tout de suite, les autres pensent que c'est plutôt à la sortie des nouveaux produits, c'est-à-dire à la rentrée. Je pense qu'aussi qu'Apple a sécurisé chez ses fournisseurs jusqu'à la prochaine génération d'iPhone notamment.
Comment ça se passe là? On sait comment ça se passe là, les négociations secrètes qu'Apple a avec ses fournisseurs de composants électroniques.
Ça dépend le point.
C'est au mois par mois, c'est d'année en année.
Alors, il y a plusieurs systèmes en parallèle. Ça dépend ce qu'on fabrique concrètement. Il y a parfois on négocie un prix et il y a après le prix à la livraison. Ça se fait beaucoup chez les PC notamment où on a un prix en fonction de l'évolution du prix des composants et on a un autre prix qui arrive, une nouvelle facture qui arrive. Être parfois.
Okay.
Différentes. Apple,
et le constructeur n'a rien à dire en fait.
Et non, parce que c'est dans la petite ligne du contrat, mais à un moment, il négocie aussi avec Foxconn un prix, et à la fin, il y a peut-être un prix qui est différent et qui va être impacté ensuite sur le prix de vente final.
Je discutais il n'y a pas longtemps avec un patron d'une compagnie aérienne qui me disait que, par exemple, pour le pétrole, enfin en tout cas pour le fuel qui va dans les avions, certaines compagnies bloquaient en fait les tarifs sur plusieurs années. Et en fait, ils payaient un petit peu plus cher. Quand c'était pas cher,
ça permet de lisser.
Mais ça permet de lisser. Vous savez, c'est un peu comme les taux d'intérêt de certains crédits, en fait. Et je me demandais si c'était pareil aussi dans les composants électroniques. Est-ce que Apple, avec sa toute puissance, peut pas dire, écoutez, vous savez quoi, sur les trois prochaines années, moi, toutes vos mémoires, je vais les acheter à tel prix.
Si puissant que ça, parce que par exemple, dans l'ordre de priorité, apparemment, ils ont été rétrogradés. Maintenant, les fabricants préfèrent prioriser des data centers qui ont de la masse, du budget, une vision sur 2-3 ans, plutôt qu'Apple. Apparemment, c'est ce qui se passe concrètement, c'est qu'Apple n'est plus forcément top prioritaire comme il a pu l'être dans les usines de Taïwan ou d'ailleurs.
Enfin, Apple était top prioritaire parce que Apple achetait quasiment toute la prod. Donc,
c'est réservé, oui.
Ouais. Donc, ils arrivaient à tordre le bras.
Et tu veux dire que là, ils n'ont plus cette position de force ?
C'est différent, mais ils étaient aussi prioritaires, comme c'était le cas notamment chez TSMC.
Je
n'arriverai jamais à le dire.
Non, mais c'est...
Fournisseur de puces taïwanais. C'est eux qui ont permis à TSMC d'être au niveau, enfin, c'est Apple qui a permis à TSMC d'être au niveau de finesse de gravure d'être aujourd'hui parce qu'ils ont carrément acheté la ligne de production. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place, ils ont financé, et à partir de là, quand tu finances une partie de ton usine, tu peux pas dire non à ton fournisseur. Sauf qu'on arrive à un fin de contrat et que ça fait 4-5 ans qu'ils travaillent ensemble, même plus aujourd'hui, et que derrière Nvidia pousse pour les solutions de GPU qui vont alimenter demain les grands data centers dont on a besoin pour l'IA. Mais ils ont encore cette puissance-là, c'est-à-dire de dire, ben, nous on vous a payé l'usine, on réserve des lignes de production, ils le font avec des écrans, ils le font avec la mémoire, mais ils ont moins de poids qu'auparavant parce que derrière il y a beaucoup d'argent qui sont en jeu. En revanche, ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, c'est qu'ils essayent de s'ouvrir à d'autres fournisseurs en disant on n'a plus de fournisseurs exclusifs comme auparavant, et on essaie de s'ouvrir à un éventail plus large. La difficulté, c'est que c'est une entreprise américaine. La difficulté, c'est qu'on a une Maison Blanche dirigée par Donald Trump aujourd'hui qui ne souhaite pas que Apple s'ouvre à d'autres fournisseurs,
et notamment les
fournisseurs chinois. Donc Tim Cook, qui reste et qui restera le président du conseil d'administration, et c'est dans sa roadmap, c'est de négocier avec l'administration américaine la possibilité de continuer de travailler avec des fournisseurs chinois pour les mettre en concurrence. Et mettre en concurrence, voilà. Et puis on entend même aujourd'hui, puisque c'est Donald Trump lui-même qui l'a annoncé, que Apple aurait signé un contrat avec Intel pour produire des puces. Alors évidemment, ils n'ont pas la techno de TSMC aujourd'hui en termes de finesse de gravure, mais ça permettrait au moins d'alimenter une partie du...
Ils se sont bien gardés de dire de quel type de puce c'était, franchement, parce que là...
Ils sont loin d'être à 2 nanomètres, comme l'annonce aujourd'hui de TSMC.
Intel n'a pas le savoir-faire et la capacité aujourd'hui de graver aussi petit, et que ce soit les iPads, les iPhones ou même les Mac aujourd'hui...
Non, ce sera des produits d'entrée de gamme, c'est clair.
Ou alors des gros serveurs qui nécessitent, si tu veux, des gravures moins fines, mais des machines qui seront à la marge, quoi.
Et encore là, quand tu vois les grosses puces d'Apple, ils visent plutôt encore à descendre en finesse de gravure.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ils visent 2 nanomètres.
Je me demande s'il n'y a pas encore, évidemment, beaucoup de politique derrière cette annonce entre Intel et Apple.
Mais bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur les composants, c'est qu'Apple, effectivement, va être obligé d'augmenter les prix, ça c'est quasiment sûr. En revanche, c'est aussi un des acteurs du marché qui a la plus forte marge brute, puisqu'il a une marge brute entre 40 et 50% pour... La marge brute, c'est quoi ? C'est en gros, c'est les bénéfices qu'on tire de la vente d'un produit.
Qui après se réduit bien évidemment quand tu intègres le marketing, la publicité, la R&D aussi qui n'est pas comprise là-dedans.
Exactement. Mais si on regarde aujourd'hui le niveau de marge brute d'un Apple, c'est supérieur à un géant du luxe comme LVMH ou Hermès. C'est là où c'est fou. Et donc on peut penser qu'ils ont aussi la capacité de rogner. Même si c'est, pour l'instant, dans l'ère Tim Cook, c'était inimaginable. Maintenant, on change d'air avec John Ternus, de renier un petit peu sur leur marge. Ils n'auront pas le choix.
Ouais, c'est clair. Bon, voilà pour le chapitre Apple. Il y avait pas mal de choses à dire, finalement. Et on attend, bien sûr, avec beaucoup d'impatience, les premières semaines de septembre où Apple annoncera, évidemment, toute la cohorte de nouveaux iPhones.
On veut du client. On veut du pliant cette année.
On veut du pliant.
Oui, a priori, parce qu'il y avait une incertitude.
On a attendu le pliant, on veut du pliant.
Oui.
Une incertitude.
On exige.
Voilà.
Il y avait une incertitude sur la dispo du pliant en septembre, et a priori, il serait là en septembre. Ouais.
On verra bien. J'aimerais qu'on évoque maintenant Waymo. Ces robots taxis qui bluffent tout le monde, aux États-Unis notamment. Enfin, je pense que tu l'as pris, Damien, lors de tes différents déplacements aux États-Unis. Je sais pas si tu es déjà monté dans un Waymo.
Non,
Olivier, c'est vraiment impressionnant.
Dans une Jaguar, mais pas dans une Waymo.
Ah, ben voilà. Et donc c'est cette Waymo qui est donc le robot taxi de Google est quand même assez impressionnant pour vous dire. La première minute, on se dit waouh, il y a personne, on a un peu peur. Et puis après, on oublie totalement. Qu'il y a personne qui est au volant.
On prend son téléphone et on fait sa vie.
On gagne confiance très très vite et il faut dire que c'est quand même assez bluffant. Ça marche bien, mais malgré tout, il y a de temps en temps des bugs, je crois, Damien.
Ça peut arriver, effectivement. On se rappelle l'histoire qu'il y avait eu on pouvait bloquer les voitures en mettant un plot de construction à San Francisco parce que forcément les capteurs identifiaient ça comme un danger. Et là, effectivement, il y a un rappel de voiture pour corriger quelques bugs avant des déploiements. Pour l'instant, il y a des déploiements dans quelques villes américaines et dans d'autres villes dans le monde. Et Waymo devait arriver en Europe, enfin, techniquement en Europe, parce qu'il devait arriver à Londres à la rentrée. Et peut-être que ça va être un petit peu retardé et qu'on va essayer de peaufiner la technologie avant de la déployer massivement, parce que ces bugs-là de sécurité, le problème, c'est que quand on est sur un secteur aussi critique de celui-là, n'importe quel bug de sécurité, ça peut mettre en péril en fait toute l'industrie. Donc Waymo, s'il se loupe, ça peut mettre en péril le déploiement d'autres marques, comme ça peut être le cas.
Et l'actu de la semaine dernière, c'était que Waymo avait rappelé en fait 3900 taxis. Véhicule, oui. Qui confondait les routes et les chantiers, ce qui était quand même petit problème.
Un petit bug.
Et d'ailleurs, ça rigole pas, hein, parce que là, évidemment, il y a la réglementation qui jette son œil là-dessus, parce que le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il y a des accidents mortels à bord d'une Waymo. Et là, ça casserait véritablement toute la confiance qu'on a aujourd'hui avec ce type de voiture, Olivier.
Les véhicules n'ont pas tenu compte des fermetures de bretelles sur les autoroutes autour de San Francisco, notamment. Donc c'est quand même assez touchy. Bon, il y a une dizaine de cas, c'est pas non plus. Mais après,
il y a un problème, il y a un bug dans le soft, voilà. Quoi, en tout cas.
Donc on dit rappel, c'est un rappel essentiellement logiciel. Hein. Ils vont pas démonter la voiture, comme on fait le cas aujourd'hui.
Ça peut se faire à distance d'ailleurs.
Ouais. Oui. Sans doute fait
par la plupart des constructeurs automobiles, mais c'est vrai que ça pose un problème. Et c'est vrai que on pardonnerait pas à une entreprise qui est cotée ou qui va l'être cotée en bourse de provoquer des accidents. Mais c'est l'enjeu. On voit que en Europe, on est beaucoup plus prudent et beaucoup plus sur la défensive autour de ça, même si dans les pays nordiques, on voit arriver maintenant des solutions.
Et en Croatie, ils ont commencé à utiliser les voitures autonomes en Croatie, un partenariat entre un constructeur chinois et Uber qui commence à se déployer. Donc ça va arriver en Europe. Effectivement, tout ce qu'on reprochait à Tesla il y a quelques années, de problèmes de détection de piétons, de problèmes de détection de travaux, on les retrouve maintenant à Waymo. À Waymo, on pensait que c'était le miracle qu'on attendait tous. Et finalement, ils se retrouvent avec les mêmes difficultés et obstacles.
Et Tesla qui semble vraiment miser à fond sur l'évolution de la voiture autonome avec les robotaxis. Hein. On va plus forcément arriver de nouveaux modèles de véhicules chez Tesla. Et Elon Musk, en tout cas, c'est son discours. Est-ce que c'est du storytelling? Semble privilégier l'émergence du robotaxi et la voiture autonome et du robot tout court en utilisant les chaînes d'approvisionnement et de montage de Tesla pour cela.
Ouais, alors il arrive normalement, Waymo arrive à Londres, mais le seul problème, c'est que évidemment les rues, les routes à Londres ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. Bon, alors au-delà du fait qu'on roule,
c'est pas tout, on roule pas du même côté. Voilà.
Bah, déjà, on roule pas du même côté. Déjà, bon, ça, ouais. J'imagine que c'est pas le plus compliqué à mettre à jour dans le logiciel, mais c'est vrai que les routes sont étroites. Il y a énormément de travaux partout. Donc
la densité de population sur une petite zone.
Bien sûr, il y a beaucoup plus de personnes qui roulent à vélo aux États-Unis. Je suis désolé, mais sur les grands axes, vous avez pas de vélo, quoi.
Il n'y a pas de trottoir déjà, donc.
Il n'y a pas de trottoir,
pas de problème.
Ça change en fait la physionomie des routes n'est pas la même et donc c'est le défi de Waymo, c'est d'arriver à Londres où la réglementation est beaucoup plus, on va dire, coulante que en Europe et après essayer de venir pourquoi pas à Paris, mais bon.
Oui, on sait qu'ils sont pas très chauds à Paris en tout cas, mais après on peut imaginer le déploiement sur certains itinéraires. Tu peux imaginer le déploiement entre des gares ou entre des aéroports parisiens où on peut parce qu'il y a l'autoroute qu'on sort de Paris, etc. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, que les infrastructures européennes sont plus anciennes puisque les villes sont simplement plus anciennes, qu'on n'a pas comme à New York des blocs où tout est autocarré et c'est assez simple de se repérer, où les voies sont larges, etc. Et puis aussi, il y a une volonté européenne d'y aller progressivement parce qu'on n'a pas confiance aussi dans l'aspect collecte des données. Ouais. Qu'est-ce que font ces constructeurs de ces informations vitales? Il y a aussi cet aspect-là. Et donc l'Europe a aussi freine son jeu de mots aussi pour cette raison.
Après, il y a aussi une part de lobbying des constructeurs automobiles européens qui sont un peu à la ramasse et du coup qui pensent pouvoir combler leur retard en retardant l'échéance d'arrivée soit d'opérateurs américains, soit d'opérateurs chinois, mais alors, malheureusement, ils vont pouvoir retarder l'échéance.
Alors qu'en Chine, c'est open bar.
Hein. Eh oui. Ouais. On parlait avec le PDG de Pony AI qui travaille avec des équipementiers français et européens pour installer leur logiciel dans des voitures autonomes qui vont pouvoir standardiser. Et c'est finalement pas tant un problème d'infrastructure autoroutière ou même de construction des rues, c'est juste en fait d'adapter la législation et de faire sauter des verrous qui sont essentiellement mentaux pour lancer des voitures. Et pareil, on va se poser la question de savoir, j'ai des caméras dans une voiture embarquée, où vont ces données-là, ouais. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite ? Parce qu'on peut les compiler pendant des années et les réutiliser pour peut-être déstabiliser un pays dans quelques temps.
Bien sûr, bien sûr. Et puis il ne faut pas oublier que, par exemple, dans les Waymo, vous avez même des caméras intérieures.
Oui.
Parce que il faut surveiller ce qui se passe dans la voiture, pour pas que les gens...
Déjà.
Détruisent la voiture ou
oublient... Non, détruisent la voiture, la salissent, enfin voilà, etc. Mais je suis pas persuadé que chez nous, par exemple, ça passe. Je suis pas sûr.
RGPD, je ne suis pas sûr
qu'on ait le droit. Donc ça, il y a plein d'obstacles en fait à tout ça.
Mais il faut demander en tout cas l'autorisation de l'utilisateur.
C'est clair.
J'ai rencontré un fabricant de voitures en autopartage comme feu l'Autolib qu'on avait à Paris, petite voiture électrique, et effectivement une caméra intérieure, puisque comme elle est en autopartage, on sait que c'était un problème en matière de...
Le vandalisme sur les Autolib, c'était...
Et aussi, bon, l'argument c'est de dire, si vous oubliez quelque chose, on va le détecter, on vous prévient, et de l'application, en fait, tu vois, il t'explique, tu dois signer le contrat. Si tu as le contrat, ils n'activent pas
la
caméra.
Donc voilà, après, bon, c'est un moindre mal, si tu donnes l'autorisation...
Par contre, tu peux pas avoir le service si tu ne signes pas.
Voilà. Est-ce que ces Waymo vont arriver à Paris ? Bah écoutez, on va surveiller ça de près et bientôt à Londres en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Olivier Frigara, merci Damien Licata, qu'on peut lire au Parisien. On refait le Mac, on refait la F1 avec Olivier. Vous restez avec nous, deuxième partie de ce De quoi je me mail, avec l'interview donc du fondateur de Tetris, que j'ai enregistré il y a quelques jours, c'était à l'occasion de Vivatech. Voilà, vous allez tout savoir sur l'histoire, la naissance, la genèse de ce jeu mythique. Et puis vous qui êtes avec nous en audio, quelques minutes supplémentaires avec Olivier et Damien vous attendent exclusivement sur le podcast audio. À tout de suite.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, c'est le retour de quoi je me mail. De quoi je me mail, en tout cas une deuxième partie qui est exceptionnelle, les amis. Merci en tous les cas d'être là. Ce que vous êtes en train de regarder a été enregistré et écouté, a été enregistré à Vivatech. Vous savez, ce grand salon dédié à la tech dont c'était le 10e anniversaire il y a quelques jours de cela. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a marqué, on va dire, mais allez, 20-30 dernières années dans le monde du jeu vidéo, et sans doute à vous aussi, puisque j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le créateur de Tetris. C'est incroyable, mais il est avec nous sur le plateau de quoi je mêle, c'est Alexey Pajitnov. Bonjour Alexey.
Hello.
Bonjour. Merci de m'avoir invité.
On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes une icône du jeu vidéo pour des millions de gens. En France, on adore Tetris, mais dans le monde entier, on adore Tetris. Et l'histoire de Tetris, c'est pas qu'un jeu tout simple, c'est aussi une histoire incroyable qui s'est déroulée dans les années 80 et que vous allez nous raconter maintenant, si vous le voulez bien. Mais juste avant, vous êtes ici à Vivatech, à Paris. Est-ce que vous connaissez Paris et pourquoi vous êtes ici ?
Oui,
je viens pour une interview d'abord et puis rencontrer des gens. J'étais très bien reçu hier et d'autres interviews aussi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez créé ce jeu un peu par accident, on dit. C'est vrai ? Parce que vous n'étiez pas au départ un créateur de jeux vidéo. Vous êtes un scientifique. C'est quoi l'histoire de Tetris ? Qui a été d'ailleurs raconté, il y a un film sur Tetris qu'on peut retrouver sur Apple TV.
Have you seen it?
Yes. Avez-vous le film ?
Je l'ai adoré, incroyable.
It's a nice movie.
C'est un très bon film.
So all started in 1994.
Tout a commencé en 1993 ou 94, quand j'ai eu mon PC. Et je ne dépendais plus d'autres facteurs et je pouvais programmer par moi-même les choses. J'ai toujours adoré les puzzles et des sortes de jeux mathématiques. Donc j'ai commencé à programmer des jeux, j'en ai fait plusieurs et Tetris n'était que l'un d'entre eux.
Alors je crois que ça a été créé dans les années 80, pas les années 90, Tetris.
Oui, les années 80.
Voilà,
donc,
c'est ça.
1984.
Oui, parce que en fait, je crois qu'il y a eu une petite mésentente ou incompréhension. C'était en 84 et non pas en 93, comme Neil, notre traducteur qu'on salue d'ailleurs, qui est derrière en régie, nous l'a dit. C'est important parce que on est en plein cœur des années 80, en pleine guerre froide. Qu'est-ce qui s'est passé après, lorsque vous avez créé ce jeu? Est-ce que vous vous êtes dit tout de suite, waouh, j'ai créé un truc de dingue? Ou est-ce que finalement, vous n'aviez pas le recul nécessaire pour vous dire, ce jeu va rendre addict des millions et des millions de gens?
Well, I was very surprised.
Oui, j'étais très surpris moi-même. J'étais moi-même accro à mon propre jeu. Je ne pouvais pas arrêter de le programmer parce que, en fin de compte, je m'amusais tellement à le jouer, je faisais semblant de travailler dessus. Et je me suis rendu compte que le jeu était vraiment très addictif. Et c'était une raison pour laquelle j'ai voulu essayer de le publier à tout prix.
Ce qui s'est passé, c'est que après le jeu vous a un peu échappé, finalement, et c'est quand même incroyable. Vous avez, durant les premières années, rien touché sur Tetris. C'est-à-dire que ce jeu, qui est sans doute le jeu le plus emblématique du jeu vidéo, ne vous a pas rapporté d'argent pendant de très nombreuses années. C'est vrai ?
Well, that was my strategy.
Oui, c'était ma stratégie, en vérité. L'Union soviétique, à l'époque, était assez spécifique en termes d'argent venant de l'étranger. C'est-à-dire que soit je me battais contre l'Union soviétique jusqu'à la fin de mes jours, ou j'essayais de publier mon jeu quand même et devenir célèbre. Et ensuite recevoir plus tard des fruits de mon travail. Ça a été une décision stratégique et je ne m'en suis jamais plaint, je dois dire. C'était la bonne décision à prendre.
Alors,
donc c'était l'Académie des sciences de l'URSS qui avait les droits pendant 10 ans, et ils m'ont aidé à bien le publier, je dois dire.
Après, évidemment, la vie est faite de rencontres, et la rencontre qui a tout changé pour vous, enfin je crois bien, c'est la rencontre avec Hank Rogers. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce monsieur ?
Oh yes,
oui,
that was very important.
C'était très important.
That was a very important moment for
un moment très important pour l'histoire de Tetris. Quand il est arrivé, lui-même était accro à la première version du jeu et il a voulu pouvoir obtenir les droits pour le Japon. Il a ensuite vu l'opportunité de le mettre sur la Game Boy. Il est venu en Russie pour obtenir les droits, et le film était d'ailleurs là-dessus, sur cet épisode-là. Et donc ça a vraiment été bien mis en scène, la façon dont l'accord a été noué avec toutes les autres entreprises qui étaient impliquées. Donc tout est dans le film, en fin de compte. Et c'était une réunion très importante pour moi, car c'était le premier personne de ce genre que j'ai jamais rencontré. Il n'y avait pas de profession en Union soviétique.
Est-ce que vous jouez à Tetris encore aujourd'hui, sincèrement ? Vous arrive de prendre une petite console ou de brancher une PlayStation et de vous faire une partie ? Et est-ce que vous êtes un bon joueur à Tetris ?
Alors, je ne suis pas mauvais, disons, à un niveau non professionnel. J'ai beaucoup joué à la Game Boy et voilà, c'est à peu près mon niveau. J'ai obtenu un certain niveau, mais quand même ça va. Et maintenant, je suis vraiment en retard sur beaucoup de personnes. Donc, il faut être plus jeune, je pense, pour jouer à ce jeu.
Ce qu'il y a d'incroyable, Alexei, c'est que ce jeu donc a plus de 40 ans, c'est ça ? 42 ans ? Une quarantaine d'années, on va dire. Et il n'a pas vieilli. Comment expliquez-vous qu'un jeu aussi, je dirais, simple, finalement, soit toujours autant... qu'on soit toujours autant accro à ce jeu-là? C'est plus qu'un jeu vidéo, non?
Yes, you know...
Oui, vous savez, je me demande pourquoi ça a touché Tetris. Je pense que c'est un jeu, un produit psychologique en fin de compte. Et la technologie change, mais notre cerveau reste. Donc un bon jeu doit pouvoir durer longtemps. C'est ce que je crois profondément. Et aujourd'hui, ce n'est pas éternel, mais en fin de compte, c'est encore aujourd'hui en vigueur. Et j'ai voulu que les gens puissent s'amuser pour toujours, finalement.
Ce qui est incroyable, c'est que quand on joue à Tetris, moi j'ai des souvenirs et j'imagine que tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent en ont aussi. Après avoir joué une heure ou deux en se couchant dans notre esprit, on voyait en fait toutes ces formes pour arriver au Tetris parfait. Est-ce qu'on arrive à expliquer ça psychologiquement ? Vous vous êtes intéressé à ça ? On a l'impression que Tetris est un jeu qui rentre au plus profond en fait de notre pensée.
Well, it's very visual intensive game.
Oui, c'est un jeu visuel intensif, l'un des plus intensifs, je dirais. Voilà pourquoi il y a eu des recherches psychologiques très sérieuses, selon lesquelles le Tetris aide notamment dans le traitement de trauma. Ça a été prouvé que le Tetris aidait parce que ça permet d'oublier les flashbacks d'événements tragiques. Et il y a eu des recherches là-dessus. Et donc, il y a des recherches médicales pour également mettre au point des produits médicaux. Donc, ça a un effet psychologique. Mais je l'ai fait uniquement pour m'amuser. Je n'avais pas d'autres visées. Simplement pour le divertissement.
Alors, j'invite à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à regarder le film Tetris, qui est disponible en France sur la plateforme Apple TV, qui est incroyable parce que ça raconte tout ce que vous venez de nous dire. Est-ce que le film a pris quelques libertés narratives, finalement ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué ou dont vous n'êtes pas d'accord ?
Well, as you understand, they try to
Alors,
squeeze kind of three or four
ils years ont essayé de mettre 3 ou 4 années de notre vie en une heure et demie.
Oui, donc forcément on passe à côté de choses.
Oui, il y a des choses qui manquent et d'autres qui ont été remplacées.
This movie, at the same time, very wrong with all this
Hollywood
stuff, with the chase,
with
the car chase, with the guns and KGB agents.
Il y avait des agents du il n'y avait pas des agents du KGB. Tout ça n'est pas vraiment vrai, mais d'un autre côté, c'est assez authentique parce que à cette époque, ça a bien permis de voir l'état d'esprit de l'époque. Et tout ça, c'était assez bien fait, je dois dire. Et tout ce qui s'est noué autour de l'accord. Et ça a été bien rendu, ça.
Je vous invite véritablement à le voir, c'est passionnant. Vous vivez aux États-Unis, maintenant, depuis pas mal d'années, je crois bien. Quand vous voyez des enfants ou des jeunes jouer à Tetris, qu'est-ce que vous ressentez ? Alors qu'ils ne vous connaissent pas, pour la plupart.
Alors, c'est incroyable ce que les professionnels du Tetris arrivent à faire avec ce jeu. Ils vont tellement vite, ils sont tellement malins avec leur stratégie. Je suis fier des nouvelles générations. Mon père un petit peu de public et les nouveaux clients, vous savez, ils ont beaucoup de jeux à disposition et ils n'ont que 20 secondes vraiment à consacrer au jeu. Donc on travaille à des mises à jour sur le jeu pour qu'il soit davantage finalement joué par les nouvelles générations.
Alors comment peut-on le mettre à jour, ce jeu, justement, parce que il a connu plusieurs itérations finalement depuis toutes ces années. Quelle est la touch que vous pourriez rajouter ?
Well, basically, we want the concept of the game.
Nous voulons bien sûr que le concept du jeu demeure le même, mais avec peut-être des nouvelles phases d'introduction, peut-être de l'IA aussi dans le jeu pour que ce soit plus attrayant pour les nouvelles générations. C'est ça que nous faisons.
Vous avez parlé d'IA justement. Est-ce que, alors aujourd'hui, j'imagine que vous profitez de la vie, vous avez bien raison. Est-ce que vous vous intéressez à l'intelligence artificielle?
Well, AI could easily play all
modern computer games. That's not a problem. Pourrait créer des jeux, ça c'est sûr. Le problème, c'est que la communication avec l'IA soit intéressante pour les joueurs. Et nous sommes en train de considérer l'usage de l'IA dans nos mises à jour. Donc, on pourrait faire des commentaires par l'IA sur le jeu.
Ah ouais.
That's one of the obvious stuff.
Ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Ensuite, je veux qu'il puisse y avoir des IA qui jouent en parallèle sur mon jeu.
Ok, bah écoutez, tout ça est passionnant. Merci beaucoup, Alexei, d'être venu sur le plateau de BFM Business et dans De quoi je me mail. Voilà, pour beaucoup d'entre nous, vous êtes un personnage incroyable, une icône du jeu vidéo. Et je suis très honoré de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup.
Thank you very much for having me.
Merci à vous de m'avoir reçu. C'était une interview très intelligente et très agréable. Merci.
Et j'espère que peut-être un jour, on pourra faire une bataille de Tetris. Mais bon, je suis persuadé qu'il me gagnerait et que je perdrais sans doute. Merci beaucoup. Voilà, ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis et puis bien évidemment n'hésitez pas à réagir avec le hashtag DQJMM, notamment sur X. On sera de retour la semaine prochaine bien sûr. Salut à tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.